Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Et pour cette dernière demi-heure de votre libre antenne, j'accueille Catherine au 39-21. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Ça me fait très 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 plaisir de parler avec vous.
Bah écoutez, super, moi aussi. Alors, dites-moi ce qui vous amène, Catherine.
Ben, c'est-à-dire, j'ai appelé hier soir parce que, après, pendant la fameuse, on va pas dire dispute, mais enfin, disons...
On n'était pas loin, quand même.
Où le verbe était chaud, quoi.
Oui, oui.
Parce que c'est un sujet, moi, qui me tient très, très, très à cœur.
Oui.
Et voilà, je veux vraiment... Voilà, je me sens un peu entre les deux.
Oui. Hein,
de se dire ça. Je veux surtout ne choquer personne, mais voilà, moi, ma vision des choses, un peu, de par une certaine expérience, disons, c'est que moi, je voudrais savoir aussi, tous les jours, quand à la radio, on vous dit « Ah voilà, c'est la 130, je ne sais plus combien, tième femme victime de féminicide », moi, je voudrais savoir aussi combien on en est, à combien on en est d'hommes tués par leurs femmes. Je ne vois pas pourquoi. Évidemment, ça fait beaucoup trop et c'est horrible et tout ce qu'on veut. Ça, y a pas, c'est pas ça. Mais je veux dire, parce que voilà, moi, dans ma famille, j'ai...
Alors, voilà. Avant que vous commenciez, Catherine... J'aimerais
oui.
recontextualiser pour celles et ceux qui n'ont pas écouté hier soir
oui.
Oui, et
oui.
qu'ils comprennent bien déjà la nature de votre témoignage. Hier soir, nous avons
oui.
eu un témoin, un homme qui s'élevait en fait contre le terme féminicide. En tout cas, il ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de terme qui définissait... le meurtre d'hommes commis par leur conjointe. Et puis, là-dessus, en fait, je ne me souviens plus de son prénom, hein, pardonnez-moi, mais on a eu Daniel qui nous a appelé pour échanger avec lui et surtout
oui.
lui dire que, voilà, il ne fallait surtout pas dresser un genre contre l'autre dans ces... des histoires très tristes de violences conjugales et qu'on évoquait simplement là des violences conjugales qui, malheureusement, trop souvent et proportionnellement, puisqu'on évoquait le
oui.
chiffre de 90% de ces meurtres commis, eh bien, 90% étaient des meurtres qui allaient dans un sens, hein, d'hommes qui...
Oui.
Enlever la vie de leur compagne, de leur femme.
Oui.
Il est vrai que certains peuvent se sentir lésés lorsqu'ils ont vécu même des violences conjugales et allant dans le sens de femmes qui sont violentes avec des hommes et avoir ce sentiment qu'on en parle moins. On en parle moins, je pense, proportionnellement aux problèmes très graves que notre société française vit. Car quand on prend le Canada, hein, aujourd'hui,
oui.
au même moment où l'on parle au Canada, je crois qu'on n'a pas atteint la dizaine de femmes qui ont été tuées sous les coups sous les coups ou sur sous les coups de
oui.
leurs compagnons. Et donc, on a une politique aujourd'hui qui entoure ces violences conjugales qui n'est pas du tout au point. Voilà, force est de constater que. Elle n'est pas au point puisqu'on en est depuis hier soir au 131e féminicide puisque à Montfermeil, un homme a poignardé sa femme et ensuite, je crois qu'il s'est donné la mort. En tout cas, il est mort lui aussi. Donc, ce qui est,
oui.
ce qui est profondément triste. Tout ça devant deux petites filles.
Oui.
Et maintenant, voilà, j'ai recontextualisé la discussion d'hier soir et je vous laisse intervenir.
Voilà. Eh bien, écoutez, il se fait que je suis la fille de mon père. Oui.
Ça, c'est bien.
Disons, comment ça?
Ça commence bien, ça.
Disons que... Ah, c'est déjà ça. Hein.
Oui.
Non, disons que mon père, voilà, dont j'étais séparée à l'âge de 10 ans, donc après, il a refait sa vie plusieurs fois. Moi, j'étais avec ma mère, donc... Donc, si vous voulez, et on était séparés par des milliers de kilomètres. Donc, voilà, on a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de distance par la force des choses. Et il se fait que pendant plusieurs dizaines d'années, une de ses épouses le battait. Donc, bon, il y a plein de choses à dire là-dessus, hein, mais si vous voulez, bon, il m'appelait, il me disait, je veux divorcer, c'est plus possible, et puis il n'avait pas la force d'aller jusqu'au bout, et il ne résistait pas, c'est ça, il ne rendait jamais, hein. Et il me montrait, quand on se voyait, il me montrait ses ecchymoses et tout ça, et... elle a fait comme ci, elle a fait comme ça, elle m'a menacé avec à l'arme blanche et tout quoi. Et donc voilà, je tout simplement, enfin j'ai toujours eu tellement mal pour lui.
Oui.
Hein, c'est ça, voilà. Donc bon après et alors votre collaboratrice m'a dit tout à l'heure, je crois qu'il était intervenu à l'antenne il n'y a pas très longtemps, l'auteur du livre Ma femme, mon bourreau.
Hein, pas chez nous en tout cas, non, non, non.
C'était pas chez vous ?
Non.
Ah bon ?
Non, non, non.
Il me semble qu'on l'a entendu. Enfin bon, en tout cas, hein, donc, il y a eu ce livre il y a 3-4 ans, je crois, 4-5 ans. Et je l'avais entendu à l'époque à la radio un peu.
Ah, alors on me dit en fait que ce garçon est intervenu sur notre antenne, mais il n'a pas du tout évoqué son livre. Mais ça, si vous voulez, c'est, voilà, il s'en est gardé parce que. Vous voyez, oui. La libre antenne est vraiment réservée voilà,
oui, je comprends. Aux privés.
Aux anonymes, en fait.
Oui,
et quand on a écrit un bouquin, on n'est plus tout à fait anonyme. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc, oui, c'est sûr. Tout à fait,
bon,
tout à fait.
Vous voyez, il a réussi à témoigner. Et donc, oui, il témoignait des violences qu'il avait subies de la part de sa compagne.
Donc, pour mon père, paraît-il, enfin, chaque journée commençait par une gifle.
Oui.
Hein, et puis tu es mal habillé, va te rhabiller convenablement, etc. Le verre de bière versé sur l'ordinateur, la menace au couteau, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et alors en plus, elle se battait avec leur fils, hein, donc j'ai un demi-frère,
oui.
Sous les yeux de mon père, complètement désemparé, quoi. Et ça a duré 30 ans.
30 ans ?
30 ans.
Il est resté avec cette compagne pendant 30 ans ?
Ben oui, elle est décédée d'abord, et puis mon père est décédé il n'y a pas très longtemps.
Et oui, c'est... Quand il vous racontait ça, alors je comprends hein, combien vous pouvez être un peu interpellé et énervé lorsqu'on évoque peu ces violences, bien évidemment, qui existe, hein, et encore une fois, je rappelle ce chiffre de 10% dans les violences conjugales, je crois même que c'est 12%. Hein.
C'est toujours ça de trop, quoi.
Mais, bien évidemment, comme les 88% commis sur des femmes, si vous voulez, ces chiffres-là sont tout de même évoqués régulièrement. Mais il est vrai que vous avez raison, ces violences de... Faites à des hommes, on en parle moins, c'est certain.
Presque pas, presque pas.
Je connais des personnes hein, qui sont des relations comme ça que je connais et qui sont qui vivent ce schéma-là.
Ce drame.
L'homme de ce couple a déjà pris. Alors il ne subit pas des violences permanentes, hein, mais il a déjà pris. Au moins 4 ou 5 fois, des claques de la part de sa femme.
4 ou 5 fois, c'est rien du tout. Enfin,
c'est rien du tout,
trop,
mais c'est déjà beaucoup.
C'est déjà beaucoup, mais là, c'était très, 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 très souvent. Quoi.
Et quelle incidence
devant le gamin.
Quelle incidence cela avait sur votre père ? Parce que vous voyez, par exemple, la personne dont je vous parle, eh bien, l'incidence que ça a, c'est qu'il est rentré dans une addiction d'alcool parce que, même si c'est que 4 ou 5... claques, eh bien elles ont provoqué une espèce de frustration chez lui et puis une blessure aussi de prendre une claque de la part de la personne avec qui vous vivez.
C'est ça.
Et votre papa, lui, comment
il en prenait déjà un petit peu
Vous voulez dire qu'il s'était habitué ?
En a plus après qu'avant. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais il a toujours aimé un peu les bons apéros et le vin et tout.
Ah oui,
donc,
d'accord.
Ça n'a pas beaucoup changé, quoi. Non, il n'y a pas eu de, je crois pas, enfin, de changement à ce niveau-là précisément. Je crois pas qu'il y ait eu de vrais changements, mais seulement vous imaginez à l'intérieur
de
lui-même.
Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous demande ça. C'est Il devait être très malheureux, votre papa, de vivre
ça. Ah ben clair, ça, c'est clair. Il n'y avait pas plus malheureux. Enfin,
Et vous, comment vous vous positionnez vis-à-vis de cette femme? Parce que vous êtes devenue, vous ensuite, vous êtes devenue vous-même une femme, une adulte. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dressée contre elle?
Non, on ne peut pas dire. En tout cas, jamais en face. Non, parce qu'elle était très... Elle pouvait être... violente et très désagréable.
Elle vous impressionnait ?
Elle avait... Pas beaucoup. Mais elle avait beaucoup de qualités aussi. Hein. Alors, c'est ça. On essayait de la prendre du bon côté. Et puis, parfois, j'ai essayé de penser à des solutions pour mon père. Mais bon, ça n'a jamais pris forme, quoi. Mais je trouve sinon que on dit féminicide, et bien alors disons aussi androcide, parce que anthropos, ça c'est l'être humain, mais ou alors en latin, je ne sais plus le mot pour homme masculin, je crois que c'est homo, donc ça va pas non plus. Ou alors conjointicide. Mais inventons, parce que c'est vrai que moi aussi je trouve ça un petit peu drôle, quoi.
Ouais, ouais.
C'est ça. Mm-hmm. Parce que il y a un truc, moi, que je n'aime pas beaucoup dans. Moi, j'aime tout le monde, moi, les hommes,
ouais,
les femmes,
ouais, je comprends.
Dire, d'une façon universelle. Et voilà.
Et donc, et ça vous provoque quoi, en fait, ça, vous. Vous dites il y a en fait une espèce de préférence. On essaie de.
Oui, alors voilà. Non, ce que je trouve, c'est que le mouvement féministe, bon, c'est bien dans un sens, ok, mais pas en allant trop loin, en se victimisant. Moi, je trouve qu'il y a un peu de victimisation dans tout ça, parce qu'on dit voilà, longtemps la femme. A été effectivement brimé, ça on est d'accord. Mais alors maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais moi j'écoute les pubs à la radio parce que je n'ai pas de télévision.
Oui.
Et moi je trouve dans presque toutes les pubs que quand il y a un homme et une femme qui interviennent, mais le con c'est toujours le bonhomme.
Ah oui, vous trouvez
ça?
Non, alors écoutez, je vous jure, je ne me suis jamais fait la réflexion, mais en y réfléchissant bien, là, comme ça, je pense notamment à une pub précise d'un homme qui va vérifier s'il paye moins cher son assurance, et c'est vrai qu'il a l'air d'un vrai couillon. Elle m'énerve particulièrement, cette pub, d'ailleurs.
C'est toujours la femme qui est plus maligne.
Oui.
Qui dit « Ah, mais tu n'as pas pensé à ceci, mais etc. » Enfin, vous voyez.
Et ça ne reflète pas complètement la situation, vous pensez?
Mais c'est-à-dire qu'on veut tellement renverser les choses qu'à l'inverse, moi, je ne serais pas étonnée qu'un jour, justement, et c'est à ça que ça m'a un peu fait penser hier soir, que les hommes se révoltent. Parce qu'en fait, il y a une tendance inverse, moi, je trouve un peu. Alors attention, il y a toujours le problème des salaires, il y a plein de problèmes, ça, on est d'accord.
Oui.
Mais alors, la parité, par exemple, moi, je trouve ça horrible. Je vais vous dire pourquoi. Pardon pour ceux que je choque, hein, ou celles. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que mettre une femme dans un groupe juste pour qu'il y ait la parité, eh bien, pour moi, c'est une femme objet. C'est un objet, c'est juste pour faire l'équilibre. Oh, vous savez, on s'en fout pas mal de vos compétences, mais il faut qu'on en ait une, alors... Vous comprenez ?
Oui, je comprends.
Non, j'ai vécu ça dans un groupe dans lequel j'ai vécu il y a longtemps.
Oui.
Et il était question de ça. Et j'avais dit, mais c'est il y a longtemps déjà, et j'ai dit, mais enfin, c'est idiot, on prend quelqu'un pour sa valeur humaine. Et s'il y a moins de femmes, eh ben, il n'y a peut-être pas de hasard, il y a peut-être une raison, parce que justement, on n'est pas pareil. une femme, ben, peut-être qu'on n'a pas dans nos gènes, on n'a pas les mêmes gènes, peut-être qu'on n'a pas les gènes faits pour, même s'il y a des exceptions, bien sûr, mais pour diriger des très grandes entreprises, etc., etc. Moi, je trouve que chaque être est unique, qu'il soit un homme ou une femme.
Complètement. Bon, moi il y a un truc... Autre... Il y a un truc qui me gêne chez les féministes, c'est qu'il faut faire attention tout le temps à ce qu'on dit. Vous voyez, un jour, je faisais une émission. Alors, je ne sais plus. Je pense que c'était... En tout cas, ça tournait autour de, voilà, de cette guerre des genres, de la parité, de tout ça. Et,
oui.
Mais enfin, très, même sur le nom, on disait « handball », où il fallait dire... enfin, je ne sais plus très bien. Mais je sais que je me suis retrouvé à un moment à dire que c'était en pleine Coupe du Monde Coupe du Monde de foot féminin. Et je me suis retrouvé à dire que j'appréciais particulièrement le football féminin. Oui, j'aimais bien le football féminin parce qu'il était assez subtil. Et puis, stratégiquement, c'était assez agréable à regarder. Et qu'en plus, il y avait un état d'esprit, voilà, moins de cinéma entre les joueuses et une plus grande courtoisie entre elles, et donc c'était plus agréable. Et là, je me suis pris une volée de bois vert en SMS et en contestation en disant « Mais enfin voilà, c'est une façon encore de stigmatiser, en tout cas de mettre dans une case. » Et vous voyez ça, par contre, ça me fatigue. Ça me fatigue parce que,
parce que
c'était pas du tout ma volonté de mettre dans une case ou quoi. Je donnais simplement mon avis juste voilà, instantané. Voilà, j'aime le foot féminin parce que il est comme ci, il est comme ça, je le trouve comme ci, comme ça, et puis ça n'engage que moi. Et là, d'un seul coup, c'était... Alors, ça n'engage que moi, il est vrai que je parle dans un micro qui est écouté par plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes, voire centaines de milliers pour la libre antenne. Non, je rigole.
Ah bon, bravo.
Non, je rigole. Mais peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, il y a des moments où vous dites des choses comme ça, qui spontanément... Et ce côté, non, mais attention, on n'a pas le droit de dire ça, patati patata, c'est vrai que c'est un peu fatigant, mais bon.
Oui, il faut absolument que les consciences s'élèvent un peu et vivent dans une liberté qu'ils acceptent aussi des autres, quoi.
Quand le film de Polanski hier, vous avez pris connaissance du film, de la sortie du film de Polanski?
Bien sûr.
Bon.
Bien sûr.
Et vous en pensez quoi de cette histoire?
J'avoue que je suis un peu embêtée, je ne sais pas trop, parce que... Bah, moi, ce que j'ai pensé tout à l'heure, en tout cas, par exemple, c'est de me dire, on ne fait pas la justice nous-mêmes, la justice verra. Ah oui, évidemment, s'il y a prescription, c'est embêtant, mais je ne sais pas. En tout cas, je ne pense pas qu'il faut que je m'empêche d'aller voir un de ses films, parce qu'il y a 30 ans, il aurait, parce que c'est très facile d'accuser.
Non, je pense qu'il a reconnu ça. Mais moi, ce qui me gêne le plus dans le procédé, je vais vous dire, et peut-être ça va faire écho chez vous, c'est qu'on attend le jour de la sortie pour allumer, vous voyez. Et donc le procédé me gêne. Pourquoi ne pas en avoir parlé il y a 6 mois, il y a un an, il y a plus tôt, parce que Roman Polanski, il existe depuis, on n'a pas attendu qu'il sorte son film J'accuse pour... voilà. Et donc, du coup, d'un seul coup, vous voyez, le côté procès maintenant sur Internet, à travers Twitter et tout ça, je trouve ça extrêmement gênant, extrêmement dangereux par moment pour notre société. Mais bon, ça n'engage que moi, je le précise.
Je préfère le préciser. Je voudrais vous demander une petite question, parce que je vois que l'heure avance.
Oui, on n'a plus que 3 minutes. On n'a plus que 3 minutes, Catherine.
Et j'avais envie de savoir si vous aviez des nouvelles de Sébastien.
Mais complètement. Et d'ailleurs, en fait, Sébastien devrait nous parler, intervenir. On va essayer de le faire intervenir demain ou la semaine prochaine, selon sa volonté à lui. Hein, mais en fait, Sébastien, comme je l'avais dit, et comme je m'y étais engagé, j'ai mis en rapport Sébastien avec des personnes qui travaillent au ministère du handicap. Et Sébastien est depuis, il y a deux semaines, même trois semaines presque. Il est accompagné depuis trois semaines et a été pris en main, coaché par des personnes du ministère du Handicap qui s'occupent de lui et qui lui proposent plusieurs choses. Et je vais vous dire, il avait mon numéro. Il a mon numéro d'ailleurs. Et ce qui est plutôt bon signe, c'est que je n'ai plus une nouvelle. Deux jours plus tard, j'avais plus de nouvelles de lui. J'en ai une le lendemain, puisque je lui ai dit que j'avais, voilà, qu'il allait avoir une personne qui s'appelait un tel, qu'il allait l'appeler, et que il fallait, voilà, qu'elle allait réécouter le témoignage qu'il avait fait sur Europe 1 la veille. Et puis, il m'a dit merci beaucoup, voilà, et je vous rappelle demain. Il m'a renvoyé un message le lendemain. Et puis depuis, comme je sais qu'ils sont rentrés en contact les uns avec les autres, Je n'ai plus de nouvelles, à part hier soir où j'étais en réunion au ministère pour autre chose, au ministère du Handicap, parce que voilà, je suis aussi certains travaux de ce ministère, et on m'a donné des nouvelles de Sébastien qui suit son chemin, qui est sorti de cette noirceur.
Il va mieux, il se sent un petit peu mieux.
Il va beaucoup mieux et puis il est plus tout seul surtout. Il est plus tout seul dans sa Bretagne. Voilà. Il a maintenant des repères, des gens qui lui parlent, qui l'écoutent, qui vont le faire venir à Paris si ça n'est déjà fait. En tout cas, on est sorti de cette situation.
En tout cas, moi, je pense souvent à lui, qu'il le sache. Je ne sais pas s'il écoute, mais je pense souvent à lui. Ça m'a tellement touché son témoignage.
Bah écoutez, en tout cas, sachez que ça va mieux et ça, c'est vrai mieux. J'aurais dû le dire, mais j'en profite pour le dire. Mais il est tard, je le redirai, parce qu'il est tard, il est une heure, et peut-être il y a pas mal de nos auditeurs qui sont partis se coucher. Je vous souhaite une bonne nuit, Catherine, et je vous embrasse.
Merci. Merci, Olivier, moi je vous embrasse aussi. Okay. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.